Ah bah là, on vient de se faire frôler par une camionnette. En termes d'aménagement, bah, y a rien. C'est-à-dire qu'on a une petite autoroute urbaine, deux fois deux voies, avec en plus du stationnement de chaque côté. Et quand on est à vélo, bah, c'est franchement hostile.
C'est une cohabitation de plus en plus difficile et meurtrière. Avec l'augmentation exponentielle du nombre de vélos depuis la fin du confinement, le bilan s'alourdit. Plus de 200 cyclistes tués sur les routes l'an dernier, ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Qu'ils soient eux-mêmes auteurs d'infractions au code de la route ou pas, ils sont les premières victimes. Mais le plus étonnant, c'est la hausse de la violence routière.
Sans la vidéo où on voit effectivement ce chauffeur tenter de percuter le cycliste, puis tabasser le cycliste à deux, hein, on aurait eu des difficultés à prouver l'intention de ces violences. Le chauffeur poids lourd avait indiqué dans ses déclarations que c'est le cycliste qui avait voulu le taper.
Pour les spécialistes, le premier déclencheur de cette violence, c'est le stress. La peur face à l'imprévu, l'inquiétude de se sentir menacé malgré la carrosserie, jusque dans l'intimité des voitures. Mais ces mêmes spécialistes pointent aussi une réalité dérangeante. L'immense majorité des auteurs de violences sont des hommes.
En prison, il y a pratiquement zéro femme pour des raisons liées à la route, alors que tout le reste, ce sont des hommes. L'homme, il se fait, au bout de quelques années, 7 ans en moyenne, son code de la route perso.
Alors, quelles sont les situations dans lesquelles le cerveau perd les pédales? Comment protéger les cyclistes, les piétons, les automobilistes? Peut-on vraiment partager la route et adapter les infrastructures? Voilà les questions auxquelles cette émission tente de répondre. Avec des interviews enregistrées à pied, à vélo, en voiture et qui commencent dans les rues de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. La rage au volant, quand la violence démarre au quart de tour, un reportage de Vanessa Descoureaux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Allô?
Oui, monsieur Cantel, c'est Vanessa de France Inter.
Oui.
Alors là, je suis rentrée, en fait, il y a une de vos voisines qui m'a ouvert, donc dites-moi où je peux me diriger.
Entrée par la porte.
Ah, je suis devant le numéro 1.
Oui, mais il faut continuer, vous avancez, vous avancez.
Attendez, je crois que j'ai mieux. La dame avec le gilet rouge, c'est votre femme?
Ah, ben ça va.
Alors, j'ai mon guide idéal.
Je l'ai envoyé.
À tout de suite.
Allez, à tout de suite.
Ah ouais, mon GPS, il est parti un peu.
Ah, c'est vrai qu'il est à toutes ces grilles et tout, ça commence à tromper un peu.
Et nous voilà au bon numéro.
Et non.
Ah bah merci de venir me chercher.
On dirait une centrale nucléaire. Alors,
c'est ici, c'est ici.
Vous voulez que j'enlève mes chaussures?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout.
Eh bah bonjour messieurs.
Bonjour.
Bien, bah écoutez, je m'appelle Jean-Marie Cantel, j'ai 76 ans. Je fais du vélo depuis l'âge de 14 ans et depuis quelques années, je roule avec les cyclos mitriens.
On va revenir sur ce jour d'octobre 2022, le 5 octobre précisément. Vous roulez sur une route départementale de Seine-et-Marne, vous roulez deux par deux et vous, Jean-Marie, dans le binôme de tête. Et là, vous êtes renversé volontairement, violemment par un chauffard.
Oui, alors on avait fait environ déjà une cinquantaine de kilomètres, on rentrait tranquillement. On attendait de se réunir pour terminer notre sortie lorsqu'une voiture est arrivée à notre hauteur. Elle a pilé à côté de nous, nous serrant légèrement. On est resté en équilibre et bien entendu, on a réagi. Qu'est-ce qui se passe? La voiture s'est arrêtée un peu plus loin. On l'a doublée. Et je me souviens très bien donc d'avoir aperçu le chauffeur. Et puis ensuite, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc je me suis réveillé dans le SAMU et les gens du SAMU m'ont dit « on vous emmène à Meaux ».
Donc vous, depuis l'arrière, vous voyez trois de vos copains dans les airs?
Oui, effectivement, j'ai vu les trois copains. Moi-même, je me trouvais à côté de la portière du chauffeur de ce véhicule. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui lui a pris? Il a accéléré. Il est parti à droite, balançant notre ami François dans le fossé, revenant tout de suite sur la gauche, heurtant le vélo de Jean-Marie, qui lui est parti en l'air et retombant sur la face. Il a continué à aller tout droit sur Serge Carlier, qui lui est tombé également sur le côté gauche. Il a broyé le vélo, il est parti, délai de fuite, il est parti direct, tout droit, sans rien demander, quoi, personne.
Vous avez eu quelle blessure ?
Alors, au niveau traumatisme crânien, puisque j'ai perdu connaissance, des multi-plaies au visage qui ont été recousues, trois dents, un bridge et une dent cassée, douleur à l'épaule également, très mal à une jambe, la jambe droite, des douleurs aussi cervicales assez nettes.
Le chauffard a été arrêté assez vite, après vous avoir renversé, une petite trentaine de minutes seulement après, il est arrêté, il est évidemment entendu. Qu'est-ce qu'il dit aux enquêteurs ?
On prenait trop de place sur la route, c'est ce qui a été dit.
Qu'est-ce que ça dit, ce genre de défense ? Qu'est-ce que ça dit de ce que vous représentez, vous, les cyclistes, sur la route ?
Nous, effectivement, on est un obstacle parce que on oblige les voitures à ralentir. On essaye d'être le plus visible possible. Mais effectivement, on représente une gêne passagère.
Jean-Marie, vous avez 76 ans, vous faites du vélo depuis vos 14 ans. Vous avez même été compétiteur. Vous en avez connu des accidents, vous en avez connu des frayeurs.
Il y a des différences. Et la région parisienne, ça devient absolument impossible. Je me posais même la question, est-ce qu'il faudrait interdire la route aux cyclistes ? Je suis un peu provocateur, mais je me demande parce que...
Tellement elle devient dangereuse pour les cyclistes.
Oui, tellement ça devient dangereux. Je me mets à la place des fédérations, je me mets à la place des assurances, et qui effectivement voient le... constate une augmentation des accidents, la question peut être posée.
C'est limité à 3.
Ah oui, oui. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas osé, je te le dis, il n'y a qu'un truc que j'ai pas osé de prendre, c'est toi quand tu étais dans la mare de sang. Hein, c'est... Mais donc là, il y a... Ça, c'est quand il est au sol. Hein, parce que nous, on a commencé à faire avec Patrick la circulation. Là. Ensuite, alors, je vais vous dire... On a ça encore une autre, là.
Là, on est sur la route départementale 9.
Oui, très large.
Il y a les pompiers, là, et là, voilà, c'est les vélos.
Voilà, une partie du vélo.
Oui, j'ai une roue, là.
Voilà.
Mais... C'est la roue arrière.
Oui.
Oui, c'est l'arrière
là,
qui est tapée.
Voilà, il y a l'autre.
Ils sont quand même bien cassés.
Ah ben oui, là, il y a l'autre. Voilà, toi, là, c'est l'endroit pile poil où toi, tu étais. Voilà, vous voyez.
Ah, excuse.
Voilà, voilà, il est broyé. Ça, c'est le vélo. Vous voyez les roues tout en biais, là. Voilà. Voilà. C'était, je vous dis, vous avez l'horreur devant vous en 3 secondes, quoi.
Vous aviez jamais vu les photos du vélo, de votre
non,
vélo,
Jean-Marie ? Non, je découvre. Je préfère pas trop les voir, finalement.
Et donc là, les deux camarades de vélo, vous revoyez depuis l'accident pour la première fois, Patrick et Jean-Marie ?
Je l'ai eu au téléphone, voici à peu près 10 jours. La dernière fois, je l'avais vu, voilà, il trempait dans son sang, le pauvre. Et puis... Ouais. Je ne pensais pas le revoir comme ça. Hein, parce que, oh ouais, parce que...
Je récupère vite, alors.
Oui, oui, oui. Ça conserve
le vélo.
Voilà, c'est... on pourrait dire ça.
Hein. Tout ce qu'il y a devant moi, là, les trois là devant, ils n'ont rien à faire devant moi. L'autre est en contresens. Voilà, regarde.
Et très vite, vous comprenez ce qu'il a en tête ou...
Non.
Ou vous êtes surpris par le bruit des pneus et là, vous
alors,
comprenez.
Déjà, je suis surpris de cette voiture qui est arrêtée. J'ai vu le conducteur de dos. Comme je suis à l'arrière du véhicule, il y a des échanges. Le gars, il enclenche la première, les pneus couinent, et il part, il tape les trois copains que je vois voler en l'air. L'image de Jean-Marie, c'est celle qui est... Un plongeon, comme s'il a fait un plongeon. Tout de suite, j'ai eu le réflexe de noter le numéro de plaque. Je l'ai répété des dizaines de fois pour que tous les copains qui étaient autour qui enregistrent, parce que j'avais rien pour noter.
Vous avez le réflexe de retenir la plaque ou vous vous êtes dit depuis des années que vous faites du vélo, un jour malheureusement je devrais avoir ce réflexe. Comment vous en arrivez à ça ?
Alors, des années, non, mais c'est récent, parce qu'on vit presque à toutes les sorties des petites altercations comme ça, sans raison apparente. Donc voilà, depuis quelques années, oui, j'ai ce réflexe de dire la plaque et la couleur ensuite.
Le chauffard de 26 ans a été mis en examen pour tentative de violence avec usage ou menace d'une arme par destination. Dans l'ouest parisien, la plaque indique avocat à la cour, droit automobile, droit pénal.
Michel Benezra, avocat en droit routier et dommages corporels. Pour prouver un caractère volontaire d'une infraction, il va falloir rapporter la preuve de l'intention de réaliser tel ou tel acte. Et dans un accident de la circulation, la preuve de rapporter une intention de causer du mal avec un véhicule, donc une arme par destination, est très difficile à rapporter.
Comment peut-on la prouver alors ?
Il existe divers moyens de prouver l'intention d'utiliser son véhicule pour porter préjudice à une tierce personne, notamment la vidéo. La vidéo est l'une des preuves les plus faciles à manier, et aujourd'hui avec les téléphones portables, est la plus efficace, parce qu'on va avoir effectivement les commentaires de chacun, à savoir si effectivement il y avait une intention de taper, de frapper avec le véhicule, en utilisant le véhicule, avec les commentaires de chacun, on va pouvoir déduire si effectivement la personne a fait exprès de taper par exemple un cycliste ou pas.
Il y a un procès qui a été très important, on va dire, pour la communauté des cyclistes. C'est le procès d'un jeune homme qui a été renversé volontairement, puis roué de coups par un conducteur de camion. Le procès s'est tenu au mois de juin à Saintes, en Charente-Maritime. En quoi ce procès a-t-il été unique, va-t-on dire ?
Alors, ce procès, je le connais bien puisque j'étais en défense de ce cycliste. La difficulté était la suivante, c'est que le personnage, le conducteur, hein, le chauffeur du poids lourd qui a renversé le cycliste, niait les faits. Donc effectivement, il faut le savoir, sans la vidéo, on aurait eu deux versions, la version du chauffeur et la version du cycliste. Donc le chauffeur qui niait les faits et le cycliste qui disait justement que le chauffeur avait foncé sur lui et l'avait tabassé après, alors que le chauffeur poids lourd avait indiqué dans ses déclarations que c'est le cycliste qui avait voulu le taper. Donc sans la vidéo où on voit effectivement ce chauffeur tenter de percuter le cycliste, puis après de descendre du camion et aller tabasser le cycliste à deux, hein, on aurait eu des difficultés à prouver effectivement l'intention de ces violences. Alors les violences non seulement avec l'arme par destination qui est le poids lourd, et aussi après les violences commises avec les poings, puisqu'ils l'ont tabassé après. C'est en ça où c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à rapporter la preuve qu'il y a des violences volontaires, et surtout que dans ces cas, en général, on n'arrive pas à rapporter cette preuve parce qu'on n'a pas la vidéo, parce qu'on n'a pas assez d'éléments, et en général, le chauffeur s'en tire avec simplement des poursuites pour blessure involontaire, donc on n'est pas du tout sur les mêmes peines, encourues au plus 3 ans, voire 5 ans, s'il y a des circonstances aggravantes, alors que sur des violences volontaires avec arme par destination, on est plus entre 5 et 7 ans.
Et là, dans le cas précis aussi, la peine a été exemplaire.
Alors, il s'agit d'une peine assez exemplaire parce que l'individu a pris du ferme. Et s'il avait été dans le cas de simple blessure involontaire, ce personnage aurait pris simplement du sursis. Donc c'est en ça où cette peine elle est assez exemplaire. Même si le quantum n'est pas exceptionnel, il faut s'attacher simplement au fait que cet individu a pris quand même du ferme.
Signe de quoi tout à l'heure ?
Putain, tu me rendais compte à quel point ?
Y'a quoi ? Y'a quoi depuis tout à l'heure ? Je viens me casser les couilles ! Pêche de quoi ? Tu pêches de quoi ? Je vais te péter une branlée, putain !
Cette agression est loin d'être isolée et les réseaux sociaux fourmillent de témoignages glaçants. Des coups, des menaces, des altercations. L'une des causes de l'augmentation de la violence, c'est l'explosion liée à l'épidémie de coronavirus du nombre de cyclistes. Plus 44% ces deux dernières années, selon l'association Vélo et Territoire. Pour voir si ce sont les mobilités douces qui entraînent les réactions les plus dures, nous avons fait le test dans les rues de Paris. On retrouve Vanessa Descoureaux équipée d'un micro sur son vélo dans le sud de la capitale.
Alors on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on prend le vélo et on a un ciel absolument dégagé, aucun risque de pluie dans les prochaines heures. Donc on en profite pour aller à la rencontre de Camille Anuise. Elle est directrice de l'association Paris en Selle. C'est une association qui promeut l'utilisation du vélo dans le Grand Paris. On va rouler un petit peu avec elle pour voir que parfois aussi, ces comportements dangereux, voilà, merci monsieur, ces comportements dangereux peuvent être causés par des infrastructures pas toujours adaptées. Je ne pense pas que ce monsieur soit à 30 km/h, la moto qui vient de passer.
Qui arrive gauche devant la gare d'Austerlitz sur une piste cyclable bidirectionnelle, donc les cyclistes roulent dans les deux sens, bien séparés de la circulation motorisée. Et en termes de confort et de sécurité, on est quand même sur quelque chose qui est bien qualitatif et on se sent vraiment à l'aise. Ah, ça c'est mes freins qui grognent un peu. Là, on remonte et on attaque la montée vers la place d'Italie. Et alors là, en termes d'aménagement, bah, y a rien. C'est-à-dire qu'on a une petite autoroute urbaine, deux fois deux voies, avec en plus du stationnement de chaque côté. Donc trois voies voitures de chaque côté. Et pour le vélo, bah, on a des petits logos peints au sol. Ah bah là, on vient de se faire frôler par une camionnette qui double un camion par la droite. Et quand on est à vélo, c'est franchement hostile. Et il y a vraiment un gros manque d'aménagement. Alors là, on se faufile, attention, un camion qui est garé sur la bande cyclable en deuxième. On se réinsère dans la circulation. Moi, ça pourrait faire partie de mon itinéraire le plus direct pour rentrer chez moi le soir et je le prends jamais.
On est en train de finir notre promenade avec Camille et on a décidé de s'arrêter sur probablement ce qui doit être la plus belle piste cyclable au monde, en tout cas l'une des plus belles, puisque nous sommes en bord de Seine et on est en train de longer le fleuve. Et on va s'arrêter là pour discuter.
Pourquoi lorsqu'on se déplace à vélo, on devrait être confronté à des situations dangereuses en fait. On est vraiment traité là comme des usagers de seconde classe, des citoyens de seconde classe, parce qu'on n'a pas en fait d'accès sécurisé sur certains axes.
Qui est responsable de cette violence motorisée? Les pouvoirs publics, l'automobiliste en question, qui est responsable?
Je pense que c'est difficile de pointer un seul responsable, mais il y a plutôt pointer les solutions en fait qui sont disponibles pour résoudre ces conflits-là. Et la solution principale, c'est l'aménagement. En créant des pistes cyclables sécurisées, séparées du trafic automobile, on permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de faire du vélo en sécurité sans être confrontés justement à cette violence motorisée puisqu'on sera dans son espace à soi.
La situation à Paris aussi fait que ces deux, trois dernières années, le nombre d'utilisateurs du vélo plus ou moins régulier a explosé. C'est difficile de faire suivre aussi tous les aménagements. C'est ça la situation aujourd'hui ?
Absolument. Donc entre 2019 et 2021, il y a une augmentation très forte sur la fréquentation des pistes cyclables. Un vrai boom du vélo en fait, hein, avec quasiment plus 78% de fréquentation des pistes. Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, côté aménagement, en fait, les aménagements ne suivent pas et que Paris, en tant que municipalité responsable de l'aménagement de sa voirie, est un peu à la peine. Elle a du mal à répondre à cette demande. Aujourd'hui, on n'arrive pas à anticiper le nombre de cyclistes qu'il y aura dans 10 ans, alors que quand on construit des pistes, il faut les construire non pas pour les cyclistes d'aujourd'hui, mais pour ceux qu'il y aura dans 10 ans, parce que les voiries, on ne les refait pas tous les 2 ans, quoi.
Selon vous, pour répondre à ces situations de violence motorisée, parce que c'est vraiment le terme dans certaines situations, la réponse est uniquement les aménagements ou il y a aussi une part de pédagogie, d'éducation à faire ?
Pour la sécurité des cyclistes, l'aménagement, il est fondamental. Ensuite, quand il y a des comportements violents ou qui ne respectent pas la loi, il faut qu'il y ait des contrôles. On parlait tout à l'heure de la limitation de vitesse, par exemple. Donc, tout Paris est passé à 30 et il n'y a quasiment aucun contrôle. Enfin, vraiment, quand je dis quasiment aucun, c'est il n'y a aucun contrôle de la vitesse à Paris. Donc, finalement, c'est une mesure qui n'est pas respectée. Et quand on annonce des choses comme ça et qu'elles ne sont pas suivies d'effets, en fait, on fait passer le message aux automobilistes que c'est OK de continuer à rouler à 60, à 70.
Puisqu'on parle de contrôle, je vais me mettre à la place de l'auditeur, parce que ça ne manquera pas d'arriver, qui dira oui, mais il faut contrôler aussi les cyclistes, parce qu'ils font aussi n'importe quoi. Quand on parlait de pédagogie, c'est dans les deux sens.
Alors les cyclistes, aujourd'hui, ils sont contrôlés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles de cyclistes, par exemple, sur la question des oreillettes. Alors certes, porter des oreillettes, c'est interdit, mais porter des oreillettes, en fait, n'est pas véritablement problématique dans le rapport aux autres. Ce qui est plus conflictuel, c'est par exemple des cyclistes qui ne respectent pas la priorité piétonne. Et donc c'est plutôt sur ce type d'infraction-là, donc la priorité piétonne, qu'il faudrait agir. Il y a beaucoup de micro-conflits aujourd'hui dans l'espace urbain qui sont nés de cette très forte augmentation de la pratique du vélo qui s'est fait très rapidement. Ça prend un peu de temps, en fait, ce changement d'habitude. On le voit aussi chez beaucoup de piétons qui n'ont pas encore l'habitude d'avoir des pistes cyclables où les gens circulent dans les deux sens et qui ne font pas forcément...
Qui regardent pas d'un côté, quand ils
traversent. Et en fait, on a tous besoin de prendre des habitudes différentes. Et malheureusement, à Paris, je pense qu'on n'est pas les meilleurs du monde pour vivre ensemble de manière apaisée. Et ouais, d'une manière générale, et en particulier sur la route et dans l'espace public, où ça reste quand même globalement assez conflictuel, quel que soit le mode de déplacement.
Message rédigé sur Twitter, 1er novembre 2022.
Jeudi dernier, un conducteur de taxi m'a délibérément renversé sur une voie de bus partagée. Voici les faits. Je suis sur la voie de bus de l'avenue de la Porte d'Italie. Elle est séparée de la chaussée par un terre-plein. En général, il y a peu de bus, il y a pas mal de feux. Je m'y sens d'habitude en sécurité. Je roule au milieu de la voie, je suis seule, je vais assez vite. Le feu passe à l'orange à quelques mètres devant moi, je ralentis. Tout à coup, un taxi essaye de me doubler en frôlant ma roue arrière. Je grogne et je montre du bras le feu qui vient de passer au rouge. Je m'arrête devant le feu. Quelques secondes plus tard, je sens la voiture qui me pousse et je suis déséquilibrée. Ma cheville gauche se tord, mon vélo tombe. Je suis emportée avec. Ma cheville est bloquée entre la roue de la voiture et mon vélo. Ça serre de plus en plus, je suis complètement bloquée. Je me dis qu'il va me rouler dessus. La voiture recule, la pression sur mon pied se libère. Je suis au sol, tremblante de partout. Le conducteur sort et me dit « Vous roulez au milieu de la voie !» Il vient de me renverser délibérément et c'est de ma faute.
Il est temps de voir ce qu'en pensent les automobilistes. Et pour ça, on va assister à une formation à destination de chauffeurs de taxi.
Ok, on va continuer sur la gestion du stress.
À Paris, Alino est un chauffeur de taxi plutôt remonté. Les cyclistes, ils ne s'en cachent pas. Ils ne les aiment pas. Partager le bitume avec eux est devenu un enfer.
Regarde-lui, voilà. Et regarde, voilà.
Des scènes comme celle-ci, Alino y est confronté tous les soirs. Et ce qu'il insupporte bien souvent, c'est de les voir griller les feux rouges.
On fait pari que celle qui passe derrière moi grille le feu ou pas. Est-ce qu'elle grille le feu?
Ah. Je savais.
Ça me paraît important, ouais, et surtout pour vous. Voilà. À 2 jours, 2 nuits, vous êtes dans les pires situations. Alors, tous les chercheurs avertis en sécurité routière sont tous d'accord pour dire qu'on conduit d'abord avec les yeux. Mais je rajoute, on conduit également avec son cœur. C'est le registre des émotions. Chaque fois que je fais quelque chose, mon cœur parle par un niveau de battement cardiaque. Or, chaque fois que vous faites quelque chose, votre cœur monte dans les tours. Il y a un deux roues qui vous coupe la route, ben vous étiez à 100, vous allez monter à 140, 150. J'ai eu des cas jusqu'à 220. D'accord ? C'est mon seul but. Ramener le cœur à un niveau acceptable pour vivre le plus longtemps possible, vivre le plus vieux possible.
Comment vous vous appelez, monsieur ?
Sotira Eng.
Ça fait combien de temps que vous faites taxi ?
Depuis 2004. Ça fait donc presque 20 ans, là.
Est-ce que votre métier a changé ces 18 dernières années avec la multiplication des vélos et aussi des trottinettes, d'ailleurs ?
Énormément. Les vélos, bon, à Paris, ils ont aménagé beaucoup de pistes cyclables. Mais la plupart du temps, ben, il y en a toujours 10 ou 15%, ben, malgré les pistes cyclables, ils prennent quand même le couloir de bus à côté. Tous les jours, ben, si vous prenez le boulevard Sébastopol, vous verrez que, alors que la piste cyclable, elle est énorme, eux, ils préfèrent venir dans les couloirs de bus.
Mais ils ont le droit ?
Ben, oui, je sais qu'ils ont le droit, mais pourquoi ils ont pas ils vont pas prendre le piste cyclable ? Ils ont dépensé combien pour faire ces pistes-là ? C'est l'horreur, voilà.
Ça rajoute du stress à un métier déjà très stressant ?
Énormément, énormément. C'est pour ça que moi, en ce moment, j'ai déjà mes propres clientèles. Et bon, je parle couramment anglais, donc j'ai mes clientèles et je préfère proposer des courses pour aller en province. Passer une journée entière avec mes clients que travailler dans Paris.
Parce que c'est devenu trop difficile de travailler dans Paris avec toute cette cohabitation ?
C'est hyper stressant. C'est quand j'ai des réservations dans Paris, j'ai une boule au ventre. Là, je dois encore rentrer dans Paris pour traverser les bouchons. Des fois, vous savez, je préfère annuler les réservations, donner à des collègues parce que j'ai de la boule au ventre et que je n'ai pas envie de rentrer dans Paris en voiture. À ce point-là.
Vous savez comment la nature humaine est. Les cyclistes disent c'est les voitures et les taxis qui font n'importe quoi. Les taxis et les voitures disent c'est les vélos et les trottinettes qui font n'importe quoi. Comment on en est arrivé là pour circuler aussi mal et aussi agressivement dans cette ville ?
Mais dans cette ville, c'est que moi, ce que je trouve, c'est que voilà, on donne priorité aux cyclistes, aux piétons. Il suffit de voir déjà dans Paris, les piétons, les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Et on demande toujours aux automobilistes de respecter. Quand un automobiliste touche soit un vélo ou un piéton, c'est toujours l'automobiliste qui prend.
Je comprends ce que vous dites, monsieur, mais en même temps, on a rarement vu un automobiliste tué ou blessé dans un choc avec un piéton.
Mmh. Oui. Mais c'est le fait que, voilà, c'est nous, automobilistes, on est obligés de faire attention à tout. Alors que les autres, ils peuvent traverser n'importe comment, même sur des grandes axes.
Ça vous arrive de, pardonnez-moi d'être familière, de péter les plombs ?
Oui, même trop souvent maintenant. Donc du coup, c'est pour dire qu'en ce moment, je travaille que sur réservation. Le jour où je n'ai pas de réservation, je reste chez moi. C'est insupportable, ça devient insupportable. Je pense qu'il y a trop de laxisme vis-à-vis des piétons et des cyclistes. On a laissé trop faire.
Excusez-moi ! Ah, tu siffles en plus ? La piste cyclable, elle est à gauche. Ah, tu le sais, mais pourquoi tu y vas pas ? Vous savez que vous me dérangez.
C'est pas interdit de rouler.
Ah, si. Si.
Vélo, en fait, c'est ça, regarde.
Ah, bah, je t'ai dit quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? En fait, la roue, c'est pas un jeu, c'est pas un divertissement. Enfin, je sais pas, demain, j'ai un accident avec un cycliste. Garde à vue, forcément, selon l'état de la personne, homicide volontaire ou involontaire, j'ai pas envie d'aller en prison.
J'espère que vous en avez profité le maximum, hein, que vous êtes approprié tout ça. Et puis maintenant, c'est à vous de faire le boulot. Et puis ensuite, faites passer le message, quoi. Hein, et que tout le monde en profite, déjà vous, et puis à votre famille autour. OK ? Bon, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour vous ? Allez-y, profitez-en. Donc merci pour tout cela. Et puis, vivez longtemps, hein, et que Dieu vous garde.
Lorsque vous circulez sur la voie publique, à l'approche d'une traversée piétonnière, que vous soyez à moto, à vélo, en véhicule récréatif, en tracteur, en cortège de mariage, ou simplement en auto, la priorité est toujours aux piétons.
Nous sommes aux côtés de Jean-Marc Bellet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie de l'automobiliste, dont « Les hommes pilotent, les femmes conduisent » ou encore « Zen au volant ». Est-ce que la voiture ne fait pas ressortir des instincts primaires chez nous ?
Instincts primaires peut-être. Moi, je vois surtout le côté psychologique. Quelque part, le volant rend fou. C'est pas simplement un morceau de tôle avec quatre roues qui roule sur le bitume noir. C'est bien autre chose. Certains caressent leur voiture avant de monter à bord, c'est-à-dire on touche l'aile de la voiture comme si on caressait la peau d'une femme. Bien, la voiture, elle, finalement, c'est une zone d'intimité. On peut la comparer, par exemple, à une pièce de son logement. Si vous voulez, par exemple, passer la tête, la fenêtre étant ouverte, pour le mettre dans l'habitacle, c'est carrément mission impossible. Vous allez vous prendre la dérouiller de votre vie, vous n'avez rien à faire dans le véhicule. Il y a deux zones d'intimité. La zone d'intimité avant, qui justifie donc que lorsqu'il y a une queue de poisson, vous venez dans la zone d'intimité avant, qui est une zone interdite, pour les autres, et c'est là qu'il y a donc réaction épidermique, vous lui en voulez, ça vous fait peur. Et à l'arrière, pareil, du véhicule, il y a une zone d'intimité arrière, ce qui explique que quand on vient coller au véhicule, ça vous irrite, et puis vous voulez qu'il dégage, et ainsi de suite, ça vous fait peur, vous risquez l'accident.
Donc on est dans le registre de la violation de l'intimité.
Tout à fait.
Est-ce que les femmes ont le même rapport à la voiture ? Est-ce qu'elles considèrent elles aussi que c'est de l'ordre de l'intimité ? Ou est-ce que c'est très masculin ?
Non, pour les femmes, c'est très clair, c'est la voiture, c'est un simple moyen de déplacement. Elles ont appris avec, on va dire, le moniteur ou l'enseignant de la conduite, donc les rudiments pour conduire en sécurité. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ne l'oublient pas. Pour l'homme, lui, il se fait, au bout de quelques années, 7 ans en moyenne, son code de la route perso. Et ensuite, il décide. Alors là, la République, les services d'État ont mis un panneau limité à 80. Eh bien non, moi, avec ma voiture et toutes mes sécurités, mon savoir-faire, je peux passer à 100 et on passe à 100.
Donc là, c'est le moment où le standard explose, où les gens vont dire non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme ça que ça se passe en général quand vous abordez ces questions-là. On va pas dire que les femmes conduisent mieux que les hommes, mais est-ce qu'il est vrai d'affirmer qu'elles ont une vraie notion du risque routier bien plus élevée que celle des hommes ?
En prison, il y a pratiquement zéro femme. Moi, j'en ai trouvé zéro quand j'ai fait mon étude, pour des raisons liées à la route. Pour les infractions routières, 75% des cas, ce sont des hommes et seulement peu pour les femmes. Donc, quand on met tous ces chiffres sur la table, ils parlent d'eux-mêmes. Je prends l'exemple souvent des feux de signalisation. Là, nous sommes en présence d'une femme, par exemple, qui a le feu à l'orange. Tout de suite, si elle le voit à 300 mètres, elle met sa manœuvre d'approche de façon à arriver à vitesse zéro au pied du feu. Elle va s'arrêter au pied du feu parce qu'il va passer au rouge, très consciente de ses responsabilités au volant. Lorsqu'un homme est dans la même situation au feu orange, lui, il dit « je vais essayer de passer ».
Face aux habitudes, aux réflexes, à la peur aussi, les chercheurs travaillent sur les comportements. À l'université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne, c'est avec des simulateurs qu'ils étudient les réactions des usagers de la route. Piétons, cyclistes, automobilistes se trouvent confrontés à des situations particulières sous l'œil des scientifiques. C'est à leur place que va s'asseoir pendant quelques minutes Vanessa Descouvre.
Il n'y a pas de voiture, on peut y aller.
Interception sur France Inter.
Donc, je suis Stéphane Caro, ingénieur de recherche à l'université Gustave Eiffel et je suis responsable d'un ensemble de simulateurs immersifs.
On va faire un petit peu attention. Poursuivre sur la piste cyclable.
Voilà, donc bienvenue dans l'une de nos salles de simulation où on a ici un simulateur de voiture.
Juste derrière, il y a une palanquée d'ordinateurs.
Juste derrière, c'est le poste de contrôle avec différents ordinateurs qui ont chacun leur rôle dans la simulation. Donc, par exemple, un simulateur qui contrôle la position des véhicules dans l'environnement et plusieurs autres ordinateurs qui calculent les images à afficher sur les écrans.
En résumé, comment ça marche, une expérience avec ce simulateur qui est devant nous ?
Alors, on fait appel à des participants qui viennent de l'extérieur. On les invite à prendre place sur le simulateur et ils sont confrontés aux situations qu'on a programmées pour eux. Et ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ils vont percevoir leur environnement, la façon dont ils vont réagir. Et donc, on enregistre un ensemble de données qu'on va pouvoir traiter et interpréter pour voir comment les participants, justement, réagissent face à ces différentes situations. Vous voulez essayer ?
Bon, c'est bon, je suis équipée.
Du coup, je vous invite à prendre place dans le simulateur.
Alors, je m'installe dans le simulateur. Alors, je suis dans l'habitacle, à la place du conducteur. Trois écrans devant moi, un parfaitement en face, un sur la gauche, un sur la droite. Des petits écrans sur les grands écrans qui représentent ce que je pourrais voir dans mes rétroviseurs. Et on est prêt. Donc là, je suis sur l'autoroute. Je surveille ma vitesse quand même. Là, je suis à 120. Donc, je suis happée par ces trois écrans. C'est vraiment absorbant, en fait. Là, il y a des travaux devant moi sur la voie de droite, sur des portes à gauche. Il y a pas mal d'automobilistes et de motards qui sont devant moi. Donc, il fallait globalement bien anticiper. Ça y est, un peu chaud, là, en fait. Allez, je me déporte sur ma voie préférée, celle de droite. Très très piégeux en fait ce ralentissement à cause de l'accident, parce qu'en plus je pense que la vitesse était volontairement par les chercheurs et les ingénieurs réduite, parce que c'est le phénomène classique de regarder ce qui se passe pour l'accident, donc on décroît considérablement la vitesse, donc j'ai très clairement failli me faire piéger. Je suis pas très fière de moi, mais il faut bien le reconnaître. Je me sens super stressée de conduire devant vous en fait. Je me sens complètement sous tension. Je ne sais pas si je suis aussi tendue que ça dans la vraie vie au volant, mais c'est assez perturbant.
Attention, zone de travaux.
Ah, c'est mon GPS qui me prévient. Donc, j'ai eu un accident tout à l'heure. Là, j'ai des travaux. Je décélère parce que je le vois, le panneau, au loin. Mais surtout, j'ai un motard devant moi. Donc, il faut quand même que je fasse extrêmement attention à lui, à moi, à tout le monde, en fait.
Sortie à 1 km.
Ouais, ok, j'y vais. Ah ouais, mais là, c'est le festival du piège, là, en fait. C'est n'importe quoi. Moi, je m'attends à une sortie, il y a une camionnette, oh là là. Moi, je sors, hein.
Beaucoup prenez la temps. Sortie.
Promis, madame. À quoi ça sert, très simplement, toutes ces expériences ?
Alors, ça sert à mieux comprendre comment les usagers de la rue, donc les automobilistes, les cyclistes, les piétons, perçoivent leur environnement, comment ils le comprennent et comment ils prennent leurs décisions, et donc de mieux savoir ce qui se passe dans la vraie vie lorsque différents usagers de différentes catégories sont amenés à interagir.
Le laboratoire a commencé à travailler avec le simulateur voiture. C'est ensuite que vous vous êtes intéressé aux piétons, aux vélos, aux usagers dits plus vulnérables, c'est ça ? C'est venu dans un second temps ?
Oui, c'est ça. On a d'abord eu des simulateurs de voitures, donc ça remonte aux années 90. Et puis plus récemment, dans les années 2000, on s'est diversifié avec la création d'un premier simulateur de traversée de rue pour les piétons, d'un simulateur de moto et puis d'un simulateur de vélo. Ce qui permet d'adresser la question de la sécurité de ce qu'on appelle les usagers vulnérables. Et donc aujourd'hui, on met davantage le focus sur les piétons et les cyclistes, puisqu'on parle maintenant de mode doux, pour étudier justement ce qui se passe dans la ville d'aujourd'hui et dans la ville de demain.
La recherche au service de la vraie vie quotidienne, en réalité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Les problèmes viennent de la rue, avec les interactions qu'on constate tous les jours sur les trottoirs et dans la rue. Et donc, c'est ce qui crée, ce qui génère les questions de recherche qui sont traitées par nos chercheurs.
Sur quel type de scénario travaillez-vous pour le futur ?
Alors, on travaille par exemple sur la connaissance que les cyclistes ont des bonnes pratiques dans certaines situations. Donc, avec des collègues chercheurs d'un autre laboratoire, on essaye de savoir si les participants, qui seront des cyclistes, ont la connaissance des bonnes pratiques dans des situations particulières et si des outils de sensibilisation peuvent les amener à avoir une meilleure connaissance des bonnes pratiques et, si possible, d'en tenir compte dans leurs pratiques au quotidien. Il y a d'autres expériences en projet qui portent sur des messages donc de sensibilisation qui sont placés dans la rue, donc nous dans la rue virtuelle. Et la question est de savoir si ces messages sont pris en compte par les participants, cyclistes ou automobilistes.
Ah là, c'est les deux, sur le même sujet.
Tout à fait, un regard croisé entre simulateur voiture et simulateur vélo, donc à l'approche d'intersection.
Chaque fois que je monte en voiture ou que je prends mon vélo, je m'embarque pour une aventure dont je suis le seul héros.
Vous pouvez vous asseoir.
Maîtresse,
oui.
Est-ce que je peux aller chercher mon casque? Il est.
Vas-y, Elsa.
Merci.
Ah,
je me suis fait mal.
Est-ce que ça enregistre ce qu'on dit?
Ça enregistre.
Bonjour, c'est nous. Vous interviewez quoi?
Assieds-toi, maman. Je fais un reportage sur la formation que vous allez recevoir pour bien rouler à vélo.
Ah oui.
Moi, j'aime bien.
Aujourd'hui, vous allez apprendre les panneaux.
Aujourd'hui, je crois que oui, parce que il y a les panneaux et les trois semaines dernières, on l'avait pas fait avec les panneaux, donc on va le faire.
Ceux qui savaient beaucoup faire du vélo, bah, ils ont encore plus appris.
Ok. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir?
Bonjour.
Ok. Juste, c'est la dernière séance de vélo cette semaine. La semaine prochaine, on sera autour du vélodrome pour pouvoir faire la sortie. Ok ?
Nous sommes dans une école parisienne, une école primaire, et les élèves de CM2 vont recevoir une formation qui s'appelle « Savoir rouler à vélo ». Ce n'est pas un programme obligatoire partout en France.
Allez. Aujourd'hui, on va voir principalement ces trois panneaux. Vous avez un panneau stop, un panneau pour les pistes cyclables et un panneau carré. Je vous interrogerai après pour savoir ce que c'est. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, je vous distribue les vélos, vous mettez dehors et on va faire les groupes avec Michel.
Hop, Elsa, il y avait une couche ici. Merci.
Il faut jamais faire plus.
D'abord, vous rendez votre livret.
Il faut jamais faire confiance aux autres quand on est en vélo. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas et il ne faut pas lui faire confiance.
Toi, tu fais du vélo dans la vie?
Oui, beaucoup à La Rochelle. Depuis que j'ai 1 ou 2 ans, je commence à faire du vélo avec roulette.
Et tu les connais, les panneaux, là?
Oui, il y a piéton, il faut s'arrêter s'il y a des gens qui veulent passer. Il y a stop, bah, il faut s'arrêter. Et il y a piste cyclable, c'est-à-dire qu'ils nous montrent là où il y a la piste cyclable.
Eh bien, écoute, je vais voir si tout le monde en sait autant que toi.
On a des vélos, les enfants? Ah, le cahier, il fallait que tu le rendes.
Bonjour, je fais une dédicace à Anne-Mamie.
Teodoro Bartuccio, président de l'association Mon Vélo Tune Vie et directeur sportif du Paris Cycliste Olympique.
Ce programme qui s'appelle Savoir rouler à vélo, qu'est-ce qu'ils apprennent, les petits?
L'idée, c'est de surtout les former, non seulement pour les former en tant que jeunes à se déplacer à vélo, mais aussi former une future génération. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis aussi, faire passer un message auprès des parents. Par exemple, quand on est avec les enfants, on leur explique que quand une voiture double un cycliste, en agglomération, la voiture doit laisser 1 mètre quand il double un cycliste. Ce message, évidemment, ce n'est pas pour l'enfant, parce que l'enfant ne conduit pas. Mais ce message va être pour papa, maman. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne crois pas du tout en la répression. Je pense qu'il faut former, faire comprendre aux gens pourquoi se respecter, pourquoi respecter le code de la route. On le voit, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne connaissent pas beaucoup de signalisation pour les cyclistes. Hein. Vous prenez par exemple les triangles.
Le fameux panneau M12.
Voilà, donc les triangles qu'il y a au-dessus, en dessous des feux tricolores. Moi, ça m'arrive souvent de tourner à droite, je me fais klaxonner, l'automobiliste me rattrape en me disant « Vous avez grillé le feu ». Non, pas du tout. En fait, le panneau nous permet d'anticiper le feu sur la droite.
Et par manque de pédagogie, de connaissances?
Oui, je pense qu'il y a un manque de connaissances et puis il y a aussi un manque de volonté de l'appliquer.
Quand vous prenez le vélo, depuis quand vous ressentez ce moment pas très agréable qui est de « Oh, je suis peut-être en danger là en fait ».
Ça a commencé déjà pendant le confinement. Le peu d'automobilistes qu'il y avait faisaient n'importe quoi. Et ensuite, à la fin, quand c'est redevenu normal, et ben là, il y a une vraie montée d'agressivité entre tout le monde. L'automobiliste, le cycliste, voire le piéton. Et depuis, il y a une vraie agressivité sur les routes. Aujourd'hui, un automobiliste, si ça ne lui plaît pas ce que vous allez lui dire ou si vous êtes mal placé sur la chaussée, il ne va pas hésiter à mettre un coup de volant pour vous renverser. Alors qu'avant, on ne le voyait pas, ce comportement-là.
Comment peut-on arriver à un avenir proche, à un partage de la route équilibré, sensé, et je vais même tenter l'adjectif de bienveillant?
Avec la future génération, je pense que si on arrive à éduquer nos jeunes d'aujourd'hui, dans quelques années, on arrivera à récolter ce qu'on a semé. Très sincèrement, on arrive à sensibiliser les jeunes aujourd'hui, et j'espère que ces futurs jeunes, quand ils seront automobilistes ou cyclistes, eh ben, ils auront le sens du partage de la route. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, je pense que c'est impossible. C'est trop compliqué. Par contre, dans quelques années, eh ben, si on arrive à obtenir de la part du gouvernement cette obligation de former de tous les jeunes, je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, eh ben, tout simplement, on aura un changement des mentalités sur la route.
Premier tour effectué. Premier tour effectué. Salut tout le monde.
La rage au volant, quand la violence démarre au quart de tour, un reportage de Vanessa Descouraux. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Jean-Benoît Tétu. Cette émission est déjà à la réécoute sur le site de France Inter.